France Musique. Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Adèle Haenel avait brisé voilà quelques mois l'omerta dans le milieu du cinéma. C'est le monde de l'opéra qui est secoué depuis août par une prise de parole, celle de Chloé Brio. La soprano de 32 ans a parlé le 17 août dans la revue La Lettre du Musicien. La chanteuse accuse l'un de ses partenaires d'agression sexuelle. C'était lors de la production de L'Inondation, musique de Francesco Filidei, mise en scène de Joël Pommera la saison dernière, d'abord à Paris à l'Opéra Comique, puis à l'Opéra de Rennes et à l'Opéra de Nantes. Chloé Brio a déposé une plainte en mars après les représentations pour, dit-elle, ne pas mettre le bazar. Pendant la production, elle soutient que dans deux scènes de sexe, le chanteur est allé au-delà du cadre des propositions du metteur en scène. Dans quelques minutes, vous entendrez l'entretien que Chloé Brio nous a accordé il y a quelques jours. J'ajoute que le chanteur qu'elle accuse a de son côté déposé une plainte pour dénonciation calomnieuse. Bonjour Juliette de Bangardonne.
Bonjour Jean-Baptiste.
Vous êtes journaliste et dans le dernier numéro de La Lettre du Musicien, vous révélez les premiers résultats d'une enquête française. Elle porte sur le harcèlement sexuel mais aussi sur le sexisme à l'opéra. D'ailleurs, pour commencer, qui a mené cette étude ?
Alors c'est une étude qui a été hébergée par un site Composer qui promeut la visibilité des femmes dans la musique, que ça soit par des activités de critique musicale, de la musique de compositrice, et donc cette enquête qui a été réalisée et mise en ligne par plusieurs femmes qui préfèrent rester anonymes étant donné que ça montre aussi la difficulté de rendre visible ce genre de problème dans le milieu. Et donc cette enquête a été mise en ligne à partir du mois de mai et a recueilli un peu plus de 200 résultats pour l'instant.
Et donc elle est en cours, mais il y a des premiers résultats qu'on peut lire dans La Lettre du Musicien, il y a même des graphiques. Alors, de façon assez synthétique, Juliette, qu'est-ce qu'on apprend dans cette enquête ?
Alors d'abord, on apprend que le harcèlement sexuel à l'opéra, c'est quelque chose d'important. Les chiffres le démontrent, c'est quand même 83% des femmes qui affirment avoir subi des remarques sexistes dans le cadre de leur métier. Mais c'est aussi, ce que ça montre cette enquête, c'est que c'est pas seulement les femmes, mais aussi les hommes, puisque 39% des hommes ont aussi subi ce genre de remarques. Et on va dire 17% des répondants qui ont subi un abus de la part d'un collègue lors d'une situation de mise en scène. Et ça, c'est important parce qu'évidemment, ça montre combien le témoignage de Chloé Brio est important parce que c'est pas seulement une situation isolée.
Vous avez, pour La Lettre du Musicien, Juliette de Mangarton, interrogé des directions d'opéra. Comment elles réagissent à ces chiffres ?
Alors elles réagissent, j'ai surtout parlé avec Bertrand Rossi de l'Opéra de Nice, qui évidemment était consterné par ces chiffres, qui a beaucoup parlé de la charte, de la ROF, de la Réunion des Opéras de France, qui a été mise en place en 2019 et qui vise justement à protéger d'une part les lanceurs d'alerte et aussi de manière plus générale à promouvoir l'égalité hommes-femmes, puisqu'évidemment, ces questions de harcèlement sont complètement liées à la domination masculine à l'opéra. Je rappelle juste un petit chiffre. Aujourd'hui, 27 maisons d'opéra en France, seulement 2 sont dirigées par des femmes, ce qui pose quand même un vrai problème dans la parité.
Il y a déjà eu des prises de parole ces dernières années dans le monde de la musique, finalement, depuis le début de la vague MeToo. Vous le rappelez d'ailleurs dans La Lettre du Musicien.
Oui, voilà. Et ça, je trouve que c'est un constat qui est intéressant. C'est-à-dire que, d'une part, aujourd'hui, on assiste quand même à une espèce d'accélération médiatique dans le domaine de la musique sur la mise en visibilité de ce genre d'affaires, que ça soit par les sœurs Berthollet en février 2020, que ça soit aussi dans le milieu du rap avec le rappeur Moa, dont le nom m'échappe, qui a aussi été, qui est dans une affaire de harcèlement sexuel. Et en même temps, moi, ce qui m'étonne, c'est que par rapport à la vague MeToo qu'il y a eu en 2017 et notamment à l'appel de ces 653 Suédoises donc, qui en 48 heures en Suède ont réussi à réunir plus de 650 chanteuses pour dénoncer des faits de harcèlement sexuel et de sexisme à l'opéra, Chloé Brio reste complètement seule dans cette parole. Et ça, c'est questionnant quand on sait qu'il y a 17% des gens qui sont agressés sexuellement sur scène.
Merci Juliette de Bangarden, je vous renvoie à cet article dans le dernier numéro de la lettre du musicien. Vous parliez de Chloé Brio, seul, mais je vous propose à présent sur France Musique de l'écouter, son entretien. On l'a reçu il y a quelques jours, mais la voici d'abord dans la musique d'Emmanuel Chabrier. Petite étoile du destin, Emmanuel Chabrier, enregistré par France Musique en 2016. Elsa Lambert au piano et la voix de Chloé Brio qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Chloé Brio.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Ça va.
On vient de faire un résumé avec Juliette de Bangarden de la lettre du musicien de ce qui s'est passé depuis la production de l'inondation de Francesco Filidei, d'abord à l'Opéra Comique, puis à Rennes, puis à Nantes. Chloé Brio, vous avez porté plainte en mars au commissariat de Besançon, ville où habite votre agresseur présumé. En août, vous avez décidé de vous exprimer publiquement, d'abord à la lettre du musicien, puis auprès d'autres médias, ici aujourd'hui sur France Musique. Pourquoi cette prise de parole publique ?
Parce que je me suis rendu compte que en portant plainte sans rien dire, ça allait être mis sous le tapis. Je parle pas du résultat judiciaire parce que ça c'est autre chose, mais j'ai découvert en portant plainte dans le milieu de l'opéra que c'était compliqué de se faire entendre et qu'il y a des choses à changer au sein des opéras pour protéger mieux les interprètes.
Parce qu'il y a une loi du silence, comme on dit souvent.
Il y a une loi du silence, ça c'est évident que les chanteurs se mettent eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils n'osent pas parler parce que nos carrières sont fragiles, parce que on dépend évidemment de la bonne image qu'on doit véhiculer auprès des directeurs qui doivent nous engager. Donc c'est difficile de prendre parole et d'affirmer que on doit être protégé, qu'on doit être défendu. Ça, c'est la première loi du silence que j'ai constatée. La seconde, c'est évidemment, je dirais plus, une gêne de la part des directeurs d'opéra qui ont du mal, non pas à prendre conscience de la gravité des faits qu'on peut leur relater, mais ont du mal à taper du poing sur la table et dire ben, ça ne doit pas se passer au sein de mon établissement, point. Et je prends des décisions à la mesure de la gravité des faits.
Quel témoignage vous avez reçu depuis un mois et demi ?
J'ai reçu beaucoup de témoignages d'hommes et de femmes, de chanteurs évidemment principalement, et de chanteuses. Ça va du harcèlement moral au viol. Ce qui est compliqué, c'est que dans ma position, je suis comme un, je l'ai déjà dit, mais je me sens comme un réceptacle à informations que je ne peux pas traiter. Parce que je ne suis ni la justice, ni... quoi qui que ce soit qui pourrait aider ces gens. Je reçois évidemment des histoires qui sont malheureusement semblables à la mienne. Et surtout, chaque témoignage quasiment est ponctué d'un « mais je ne parlerai pas ». Voilà.
Y donc, compris pour des viols.
Oui. Le pire, c'est que pour j'ai eu un témoignage de viol. La personne qui m'a contactée m'a expliqué vraiment comment elle avait fait pour s'en sortir toute seule en fait. Mais on s'en sort pas tout seul et je sais que je suis bien placée pour le savoir, les procédures judiciaires c'est extrêmement lourd, c'est difficile moralement, il y a des jours avec et des jours sans, beaucoup plus de jours sans que de jours avec, et que les agressions très souvent se passent à huis clos, et donc il n'y a pas de témoins et il n'y a pas de preuves.
Vous avez reçu des témoignages d'autres chanteuses qui auraient subi des agressions de la part de ce collègue chanteur accusé, ce qui vous permettrait de d'étayer votre plainte ?
Alors, oui, mais elles ne veulent pas parler. Donc, je respecte leur choix. Encore une fois, moi, je suis pas là pour dire, bah, une telle m'a parlé, etc. Bon, voilà, évidemment, sinon je respecterais pas leur choix de ne pas vouloir parler. Mais oui, ça m'est arrivé, et malheureusement, ben, ça va pas pouvoir être joint à ma plainte. C'est pas dramatique dans le sens où mon dossier, il est là, il est constitué, il a fait évidemment sujet d'une ouverture d'enquête de la part d'un procureur, ce qui n'est pas anodin. Mais voilà, c'est comme ça.
Vous parliez des directeurs, des directions d'opéra. Elles se sont exprimées depuis votre première prise de parole. Chloé Briot, Olivier Mantelli, qui dirige l'Opéra Comique, estime que malgré des procédures rigoureuses, il reste beaucoup de progrès à faire pour que la parole se libère. Mathieu Ritzler de l'Opéra de Rennes a de son côté déclaré que tout s'était passé très vite et qu'il n'avait pas eu le temps de mettre en place une enquête administrative. Enfin, Alain Surance, qui dirige Angers Nantes Opéra, fait un mea culpa, semble-t-il. Il reconnaît n'avoir peut-être pas suffisamment dialogué avec vous. Il a constaté que vous vous isoliez, il n'a pas voulu paraître lourd, dit-il, et c'était une erreur. Que vous inspire, Chloé Briot, ces différentes réactions de directeur d'opéra ?
La première réaction, c'est donc celle d'Olivier Mantelli. Évidemment, on a été en contact avant cette réaction en public. Olivier Mantelli a pris des décisions, avant même de savoir que je portais plainte, des décisions pour me protéger et puis aussi, pour protéger aussi le reste des chanteurs. Évidemment, il y a des choses à faire. Ce sont des choses que j'aimerais partager parce que j'ai quelques petites idées pour pouvoir améliorer un peu la prise en charge de ce genre de processus. Pour ce qui est de Mathieu Ritzler, oui, c'est allé vite. C'est surtout allé vite pour moi. Faut quand même pas l'oublier. J'ai été agressée et ce n'était pas de ma responsabilité de continuer le spectacle ou non. Mais c'est pourtant ce qui s'est passé. Je comprends que c'est très compliqué quand le lendemain on doit être sur scène et qu'un chanteur vient vous balancer ça dans son bureau. Je comprends que ce soit difficile, mais encore une fois, c'est difficile pour la victime. Ça, c'est la première des choses. Et puis, les responsabilités en tant qu'employeur, elles sont là. Elles sont là pour les moments joyeux et festifs. Elles sont là aussi pour les moments difficiles. Enfin, pour à l'assurance d'Angers Nantes Opéra, oui, son mea culpa est arrivé au bout de 3 semaines. Alors, quand il parle de mon isolement, je réfute absolument ce qu'il dit, puisque j'étais présente au cocktail de première, j'ai été présente à toutes les répétitions, je ne me suis pas barricadée dans ma loge, qui est juste au-dessus du plateau. Je pense qu'il était juste très gêné, et ce n'est pas grave d'être gêné, mais il faut quand même pas non plus pousser.
Olivier Mantelli a décidé de ne pas reconduire votre agresseur présumé à l'Opéra Comique pour les reprises de l'inondation. Chloé Briot, vous avez envie de chanter à nouveau ce rôle ?
Pour l'instant, je ne sais même pas si j'ai envie de chanter encore. Ça, c'est la première des choses. J'ai envie de chanter, évidemment. Je ne sais pas si je suis capable.
Pourquoi ?
Parce que j'ai eu beaucoup de conséquences psychologiques et que chanter, c'est s'ouvrir, c'est mettre les tripes sur la table. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Et aujourd'hui, j'ai plutôt envie d'être plutôt renfermée et de pas trop ouvrir la bouche et chanter et être touchable émotionnellement parlant. Parce que moi, quand je chante, j'ai aucune barrière. Et ces derniers mois, je m'en suis mis énormément pour me protéger. Donc ça, c'est la première des choses. Ensuite, oui, j'ai envie de chanter. Je vais faire par petites étapes, par des petits concerts qui me sont proposés et j'en suis ravie parce que la situation est compliquée. Mais pour ce qui est de ce rôle-là en particulier, pour répondre à votre question, j'adore cet opéra. J'ai beaucoup aimé travailler ce rôle. Heureusement, c'est dans quelques mois, voire années. Donc je me laisse du temps.
Normalement, vous chantez samedi à l'Opéra Comique pour le gala de l'Unisson.
Oui, Oui. je me laisse la soupape, et tout le monde est au courant à unisson, je me laisse la possibilité de ne pas pouvoir venir si je ne le sens pas. Il y a aussi beaucoup de membres de l'association d'unisson qui m'ont dit qu'ils avaient peur que je subisse des agressions verbales de la part des défenseurs, je mets des guillemets autour de ça, de mon agresseur. Donc, ayant cette information... Là, peut-être que le jour venu, je ne vais pas forcément avoir envie de subir ça.
Je vous propose qu'on s'arrête quelques minutes et qu'on écoute une production qui a été présentée, elle, au Festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence, qui avait été créée à la Monnaie de Bruxelles. C'est Pinocchio de Philippe Boussemans. Vous êtes ici avec Stéphane Degout. Et dans la fosse, il y a le regretté Patrick Davin.
Oui.
Celui-là, il est neuf, il est beau. Je suis content. Merci, papa.
Je suis content que tu sois content.
Ça fait quoi de ton manteau? Tu l'as vendu pour me l'acheter. C'est gentil, ça. T'inquiète pas. Je vais trouver des solutions à tous nos problèmes. On trouvera une maison avec piscine et garage.
Un extrait de Pinocchio, opéra de Philippe Boussemans, Chloé Brio, notre invité ce matin sur France Musique, avec Stéphane Degout, un enregistrement avec l'orchestre de la Monnaie de Bruxelles dirigé par Patrick Davin. C'est aussi une mise en scène d'ailleurs de Joël Pommerat. Joël Pommerat, le metteur en scène de l'inondation, il vous a soutenu publiquement?
Non. Non.
Vous le regrettez?
On était en contact très régulier parce que c'est quelqu'un avec qui je m'entends très bien et avec qui j'ai adoré travailler. Donc on a été en contact pendant le confinement. Il connaît évidemment mes démarches. Il a évidemment été mis au courant de ce qu'il se passait puisque c'est le premier que j'ai tenu informé de la situation. Il n'y a pas de soutien public, c'est un choix. Je ne lui ai pas reparlé depuis ma prise de parole publique. Je l'ai prévenu que j'allais le faire. Je ne lui ai pas dit. J'ai demandé à personne d'ailleurs de me soutenir publiquement. Voilà, c'est un choix de sa part. Je ne sais pas pourquoi.
Stéphane Degout, qu'on vient d'entendre, lui l'a fait à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux, également à ce micro. Sabine Devielle, Jody DeVos. Vous vous sentez malgré tout soutenue par vos pairs. Sabine Devielle, vous la connaissez depuis longtemps.
J'ai été pas surprise de la part de Sabine, puisque voilà, on était en contact en dehors de sa prise de parole publique. Je suis évidemment très heureuse de l'avoir entendue prendre position, mais en tout cas en parler, c'est important. J'ai été très surprise de la part de Stéphane et de Jody, que je n'ai pas eu en dehors de leur prise de parole publique par message ou quoi que ce soit. C'est très fort de leur part parce que c'est très difficile de parler aujourd'hui publiquement. Et je me sens, oui, soutenue. Évidemment que ceux qui ne me soutiennent pas se gardent bien de m'envoyer des messages pour m'incendier. Donc j'ai eu beaucoup de soutien, vraiment beaucoup, des gens qui restent dans l'ombre, des gens qui me soutiennent publiquement, ça fait du bien.
Il y a des silences qui font mal?
Ah oui, et il y en a.
D'amis?
Oui. Je pense que ça vient au départ, je veux croire que c'est une gêne qui les empêche d'apporter un soutien. Et j'avais encore cette conversation-là tout à l'heure au téléphone avec une amie qui est chanteuse. Je lui répondais ça. En fait, évidemment, tout le monde est gêné. Quand quelqu'un décède, c'est gênant. Quand quelqu'un est malade, c'est gênant. Quand quelqu'un subit des agressions, c'est gênant. On ne sait jamais quoi dire. Un petit texto en disant juste « je pense à toi, courage ». Bisous, c'est quand même pas très compliqué.
Le message passe ce matin sur France Musique. Chloé Brio, après votre plainte, le ministère de la Culture a indiqué publiquement avoir fait un signalement auprès du procureur de la République. C'est un signal fort pour vous?
c'est un signal extrêmement fort que beaucoup de gens, je pense, n'ont pas très bien compris. D'abord parce que au niveau juridique, c'est différent d'une plainte. Bon, voilà, c'est l'article 40. Il faut pouvoir faire des recherches si on en a envie. Un signalement, c'est pour dire j'ai été au courant qu'il s'est passé quelque chose au sein d'une institution que je représente. Ça, c'est la raison pour laquelle ils ont fait signalement. Ils ont proposé de faire ce signalement au directeur d'opéra de Rennes et de Nantes. Ils ont refusé. Donc le ministère doit le faire à leur place. C'est ce qu'ils ont fait. C'est un signal fort, je pense. Au départ, j'aurais pensé que ça libérait plus la parole de tous les témoignages que je pouvais recevoir. Je me suis dit, tiens, ça y est, d'abord j'ai été entendue, donc ça c'est hyper important. Et donc ça va amener les personnes qui m'ont confié des choses très lourdes à peut-être entamer des démarches. Mais finalement, ça ne se fait pas. Alors évidemment, il ne faut pas être impatient, chacun son rythme. Moi j'ai mis 6 mois, il y en a d'autres qui vont peut-être mettre 2, 3, 10, 20 ans. Mais je suis très contente qu'il l'ait fait. Mais ça ne va pas forcément, ça ne va pas forcément aider dans ma procédure judiciaire. D'accord ? Il y a une procédure judiciaire, elle est là, elle est complète, c'est le procureur qui décide. Le ministère, il fait ça aussi parce qu'il doit le faire. Et il voulait aussi envoyer un message fort au directeur et aux victimes en disant, voilà, nous on est au courant et quand on est au courant, on agit. Et c'est ça dont on a besoin aujourd'hui, c'est d'agir. Parce qu'il y a une charte qui existe, qui a été rédigée, etc. C'est très important, cette charte. Mais personne ne la respecte, d'une. Et parfois même, personne ne la connaît. Donc aujourd'hui, agir, ça va aider aux victimes à, elles aussi, pouvoir se dire « j'ai le droit de me protéger, de me défendre et de dire ».
Vous parlez du judiciaire, Chloé Brio. D'un point de vue judiciaire, une confrontation va être organisée avec votre agresseur, présumé. Comment vous appréhendez ce moment ?
Pour l'instant, je n'ai pas de date pour cette confrontation, donc ça peut prendre toujours beaucoup de temps. D'abord, je vais être auditionnée, ça c'est très bientôt, par le capitaine de police. En réalité, je m'y prépare pas vraiment parce que je me répète inlassablement, je revis inlassablement la situation. Donc je vais simplement dire, comme d'habitude, le déroulé et je vais expliquer les choses et je vais être vrai et sincère. Pour la confrontation, oui, j'ai peur, c'est normal. Je pense aussi que mon agresseur n'est pas très à l'aise avec cette idée. Mais il faut en passer par là peut-être pour... ou bien qu'il reconnaisse les faits de façon orale, ou bien qu'il comprenne que c'est très grave. Parce qu'en fait, le but de la procédure, c'est pas d'avoir un résultat judiciaire. Parce que sinon, on porterait jamais plainte. Parce qu'il n'y a jamais... quasiment jamais de résultat, c'est-à-dire de décision, de prison, même de sursis, etc. Mais moi, je fais cette procédure-là pour qu'il s'arrête.
Vous craignez un classement sans suite ou vous ne croyez pas en la justice ?
Je crains un classement sans suite parce que je sais qu'à 99% du temps, dans des affaires d'agression sexuelle, c'est ce qui se passe. Il aurait pu avoir un classement sans suite avant même l'ouverture d'une enquête. Ça, c'est la première victoire. Oui, je le crains, comme beaucoup. Croire en la justice, j'ose même pas dire, j'ai peur de m'attirer un mauvais karma. J'ai du mal à y croire parce que j'ai quand même beaucoup lu, beaucoup écouté de témoignages de victimes pour des affaires de viol. Pour des affaires d'agression sur mineurs, notamment Adèle Haenel qui avait fait une longue interview dans Mediapart que j'ai regardée il n'y a pas si longtemps parce que jusqu'alors j'étais pas tout à fait en mesure de la regarder. Je comprends qu'elle n'ait pas voulu porter plainte parce qu'en réalité, moi, si dans mon dossier il n'y avait pas une pièce maîtresse, même peut-être mon avocat maître côté bretonnier m'aurait conseillé de ne pas porter plainte. C'est ça, aujourd'hui, la réalité, c'est que quand on n'a pas de témoignages, quand on n'a pas...
C'est les témoignages, hein, les pièces maîtresses.
Pas que. Quand on a des témoignages ou quand on a des écrits ou un début de reconnaissance de fait, on ne sait même pas ce qui va se passer. Donc, quand ça se passe à huis clos, qu'il n'y a pas de témoignage et qu'il y a encore moins une reconnaissance des faits de la part des agresseurs, on est foutu, juridiquement parlant.
Chloé Briou, vous avez dit tout à l'heure que vous aviez des idées. Quelles sont-elles ?
Quand j'ai travaillé au festival de Glyndebourne il y a 2 ans, j'avais une scène de viol à faire avec Christopher Purves dans Péléas. J'ai vu comment l'administration de ce festival et aussi les metteurs en scène et aussi les assistants ont organisé cette scène-là pour qu'elle soit possible. C'est-à-dire, déjà, on en discute, mais pas à 3 avec les 2 individus qui vont faire la scène et le metteur en scène. Non, à 15. Les costumiers, les décorateurs, le metteur en scène, l'assistant et aussi un membre de l'administration du festival de Glyndebourne qui était là à chaque fois qu'on répétait cette scène-là pour s'assurer que tout était OK. Ça ne veut pas dire s'assurer qu'il n'y a pas un pervers qui va d'un coup utiliser cette situation-là pour pouvoir agresser. Non, juste pour s'assurer que tout le monde est confortable, que je n'ai pas un bout de fesse qui va partir d'un coup parce que mon partenaire aurait tiré trop fort ma veste. Tout ça était extrêmement organisé. Et aux États-Unis, il existe même un métier entièrement dédié à la vérification des scènes au cinéma de nu et de sexe. Donc, on doit pouvoir faire mieux en France. C'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, s'il doit y avoir un nu, j'ai vu au Festival d'Aix-en-Provence une réelle intention de la part de la direction à l'époque, qui était Bernard Foucroul. J'ai vu, voilà, une réelle volonté de l'administration d'être présente pendant les répétitions pour s'assurer que tout le monde était confortable, que le metteur en scène c'était OK, etc. Donc on peut le faire, je l'ai vu en France, je l'ai vu à l'étranger, mais il faut que ça se banalise tout ça. On n'envoie pas au charbon des chanteurs, des interprètes faire des scènes de sexe, de viol ou même de nu comme ça, sans préparation et sans un cadre. En fait, il faut un cadre pour pouvoir protéger. Et parfois, ben, le cadre, il ne peut pas être donné que par le metteur en scène, parce que le metteur en scène a plein de choses à faire et qu'il n'est pas forcément là pour regarder de façon précise si tout est OK. C'est pas uniquement son job. Donc, il faut peut-être aussi penser à l'administration dans les opéras à ce job-là. Peut-être à le créer. C'est important, je pense.
Chloé Briou, une chanteuse, Stoff Dahlberg, vous soutient, elle a parlé à la lettre du musicien. Elle déclare « Il faut une première personne pour porter le débat. Si Chloé Briou est bannie du milieu de l'opéra pour avoir témoigné qu'elle n'a plus de travail, alors les autres femmes hésiteront à parler et à la soutenir. En revanche, si c'est accueilli dans une perspective d'amélioration des conditions de travail, cela peut ouvrir à la discussion. En d'autres termes, il ne faudrait pas que vous soyez sacrifiée. »
J'ai pas pensé du tout une seconde au moment où j'ai parlé à la lettre du musicien. J'ai pas pensé une seconde que ça prendrait cette ampleur-là, ça c'est sûr. Donc, la tête meneuse que je suis devenue, malgré moi, c'est un fait, c'est comme ça. Pour l'instant, on est d'accord que je suis toute seule. Alors, il y a des soutiens publics, mais qui sont quand même très 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 peu nombreux par rapport à toutes les personnes que je peux connaître dans le milieu. Si je suis sacrifiée et que ça change les choses, alors ça vaudra le coup. Parce qu'il y a vraiment des choses à changer. Si je n'ai plus de travail, mais que ça peut permettre à d'autres chanteurs et chanteuses de se dire « Ah, mais en fait, ma parole est légitime et je peux demander à avoir des conditions de travail normales », eh bien, ça vaudra le coup.
Vous nous avez dit tout à l'heure, Chloé Briou, que vous n'aviez plus forcément très envie de chanter, mais ce ne serait pas une défaite pour vous si vous arrêtiez de chanter précisément après cette histoire?
Je ne le pense pas comme une défaite parce que, en réalité, ce n'est pas un choix là. Je ne suis pas face à un choix. Je ne suis pas en train de me dire, tiens, si j'allais plutôt faire un potager ou plutôt continuer à être chanteuse d'opéra. Aujourd'hui, c'est une question de capacité. Donc ma voix, elle est là, elle va très bien, hein, y a pas de problème. J'ai eu un bon repos pendant le confinement, comme tout le monde. Donc absolument pas, je le verrais comme une défaite, parce que je ne suis pas en guerre avec moi-même, en fait. Je suis juste en train de voir au jour le jour, étape par étape. Aujourd'hui, il faut d'abord retrouver du travail, parce que, évidemment, la crise sanitaire a touché tout le monde, y compris moi. Et puis ensuite, il faut aller mieux. Parce que sinon, si on ne va pas très très bien, on ne chante pas très très bien et on n'a pas très très envie d'être sur scène.
On vous souhaite d'aller mieux, Chloé Briou.
Merci.
Merci beaucoup d'être venue sur France Musique aujourd'hui. Et on se quitte avec la musique de Maurice Ravel, L'enfant et les sortilèges.
Merci.
L'enfant et les sortilèges, Maurice Ravel, la voix à l'instant de Chloé Briot, l'orchestre philharmonique de Radio France, le chœur de Radio France, dirigé par Mico Franck. Chloé Briot, qui doit participer, je le disais tout à l'heure, au gala de l'Unisson, collectif de chanteurs. Ce gala, c'est samedi 17 octobre à l'Opéra Comique à Paris. J'ajoute que le chanteur accusé d'agression sexuelle par Chloé Briot a de son côté porté plainte pour dénonciation calomnieuse. En ligne avec nous ce matin, Jean-Philippe Thielet, le président du Centre National de la Musique. Bonjour.
Bonjour Jean-Baptiste Urbain.
Merci d'être avec nous. Quelle est d'abord, si vous voulez bien, votre réaction à chaud à cette nouvelle prise de parole de Chloé Briot?
Écoutez, elle est bouleversante cette prise de parole. Elle est aussi froidement clinique, c'est-à-dire qu'il y a une analyse des faits, il y a aussi une analyse très précise des conséquences, de l'impact. Donc je suis à la fois frappé par l'émotion qui se dégage de ce récit, mais aussi par toutes les choses qu'on va pouvoir en tirer pour éviter que ça se reproduise. Donc c'est un mélange d'émotions et d'analyses très cliniques. Et donc je trouve ça très remarquable et j'aimerais qu'on puisse aider Chloé Briot.
Alors précisément, depuis la création du Centre National de la Musique le 1er janvier, on a à plusieurs reprises, Jean-Philippe Thielet, sur cette antenne, parlé de finances, d'argent. Mais quel est le rôle du Centre National de la Musique? Quel rôle peut-il, doit-il jouer dans la lutte contre les agressions sexuelles dans le monde de la musique?
Alors l'article 1er de la loi qui crée le Centre National de la Musique nous demande d'œuvrer pour l'égalité entre les femmes et les hommes et la place des femmes dans l'écosystème, dans l'industrie musicale. Donc pour prendre ce sujet, j'ai installé un comité d'experts dès cet été. C'est le premier comité d'experts qu'on a installé. Et d'ailleurs, sa première mission va être de tirer justement les conséquences très opérationnelles de ce que Madame Briot à dénoncer pour éviter que ça se reproduise. Mais il y a encore plein d'autres choses à faire, naturellement, qu'il s'agisse de faire évoluer les formations en direction des professionnels, qu'il s'agisse de faire évoluer les aides en allant vers une forme de conditionnalité des aides dont nous discuterons avec les professionnels. En fait, il s'agit de participer à un vrai changement culturel pour que ces comportements, qui certes ont plusieurs centaines d'années d'histoire, disparaissent. Et c'est un combat de tous les jours. Je pense qu'on ne pourra jamais dire que c'est fini, mais le CNM, qui n'a pas un an d'existence, veut vraiment marquer un progrès dans ses actions.
Ça veut dire à travers des formations, par exemple?
Oui, bien sûr.
Y compris pour les directeurs d'opéra?
Oui, absolument, parce que quand même, il y a toujours la responsabilité de l'employeur. Alors, le Centre National de la Musique, et moi en particulier, ne veut vraiment pas se mêler de situations individuelles qui appartiennent à la justice et aux autorités judiciaires. Bon. Maintenant, trop souvent, on se cache derrière l'ignorance, je ne savais pas, je ne sais pas ce qu'il fallait faire, etc. Donc ça, il faut complètement l'éliminer, de manière à ce que l'employeur, parce qu'un artiste, c'est un salarié, ou c'est un... Bon. Et donc, il faut que les employeurs connaissent parfaitement leurs obligations, et je vous garantis que, dans de très nombreux cas, ça permettra de prendre les bonnes mesures en première intention, c'est-à-dire les bons réflexes. Et ça passe évidemment par la formation, dans toutes les esthétiques, parce que c'est évidemment pas un sujet uniquement classique ou uniquement des musiques actuelles.
Juliette de Barnes-Gardon de la Lettre du Musicien est encore avec nous en studio. Elle a une question pour vous, Jean-Philippe Thielet.
Oui, bonjour monsieur. Je suis ravie d'entendre que le Centre National de la Musique va mener avec des experts et aussi, j'espère, des expertes dans son comité. La question de la parité. Effectivement, pour moi, c'est quelque chose qui me semble fondamental. Et j'avais envie de vous demander quand même, sur la mise en place de cette parité, quand on voit à l'Opéra de Paris ce qui vient de se passer avec, parce que donc il y a la question des numéros 1, donc de la répartition plus juste entre femmes et hommes sur les postes à la tête des opéras, mais aussi finalement des numéros 2, puisque il n'y a pas de femmes en numéro 2, ce qui empêche une circulation du pouvoir. Et par exemple, ce qui vient de se passer à l'Opéra de Paris avec Martin Ajdari, qui est nommé directeur général adjoint sans mise au concours de postes et finalement avec une nomination qui empêche les femmes d'accéder à ces postes. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est des vœux pieux et des processus d'intention, mais où est-ce qu'on peut agir véritablement?
S'agissant de la place des femmes au poste de responsabilité et même en fait un peu partout dans la chaîne de production musicale, ce que le CNM va faire, c'est là aussi éliminer l'ignorance. Ah, je ne savais pas qu'il était possible d'avoir un régisseur général ou une directrice technique ou que seul encore. Et donc, ce qu'on va faire, c'est mettre en place en 2021 un annuaire professionnel région par région, de manière que ceux qui programment, ceux qui forment les équipes, eh bien, puissent évidemment avoir recours à de la mixité parce que c'est ça qui fait la richesse et je suis convaincu qu'on travaille mieux. À l'Opéra de Paris, j'avais essayé de mettre plus d'hommes dans la direction des costumes et mettre plus de femmes à la direction technique. Donc il y a un côté de volontarisme. Ça va aussi jusqu'au répertoire, naturellement. Le travail que fait par exemple l'équipe de présence compositrice permet aussi de dire qu'il faut davantage valoriser, mettre en valeur le patrimoine. C'est aussi une des compétences du CNM s'agissant des compositrices. Donc c'est une action très très large que le CNM veut pousser naturellement en collaboration avec tous les acteurs de la filière.
Merci Juliette de Barngarden, je renvoie au dernier numéro de la Lettre du Musicien. Merci Jean-Philippe Thiellet, président du Centre National de la Musique et ancien directeur adjoint de l'Opéra de Paris. On l'avait pas dit, on comprend mieux votre réponse à l'instant. Merci à tous les deux. Demain notre invité sera le chef Raphaël Pichon.
À réécouter sur francemusique.fr.